oubliez ça. Tout est brûlé. On a tout perdu dans la maison. Il n'y a plus rien de bon.
Coincé partout par les travaux.
C'est vraiment difficile de circuler sans rencontrer des panneaux orange.
Bonne fin de journée tout le monde. Si vous êtes dans la région de Montréal, vous le savez, hein, ça fait longtemps que le centre-ville de Montréal n'a pas été dans une aussi grande effervescence avec les Franco et surtout le Grand Prix qui commence aujourd'hui. Les essais libres ont d'ailleurs toujours lieu en ce moment. Meeker est d'ailleurs au circuit Gilles Villeneuve, on va lui parler dans un moment. Mais il y a beaucoup de monde en ville, ça fait que se stationner est carrément impossible dans certains secteurs. On va le voir avec mon collègue Emmanuel Leroux-Néga également et notre collaboratrice Déborah Cherenfant. Mais d'abord, parlons de météo parce que ça a fait pas mal des siennes hier, entre autres. Un peu quand même aujourd'hui, il y a encore des risques d'orage au moment où on se parle pour une partie du Québec. Alors qu'on est à nettoyer les dégâts qui ont été provoqués hier par les vents, les orages. Bonsoir, Fanny.
Bonsoir, Michel.
Les orages violents qui ont déclenché des incendies du côté de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Ça a frappé fort hier sur la rive nord, alors qu'on était en alerte d'orage violent. Et là, effectivement, il y a une maison qui a été touchée par la foudre et ça a déclenché un incendie. Et il y avait des vents assez importants aussi. Alors, ça fait en sorte que le feu s'est répandu sur les deux maisons voisines. Deux maisons aujourd'hui, Michel, qui sont complètement perte totale. Et c'est un phénomène qui est quand même assez rare, qui est la foudre comme ça qui crée d'aussi importants incendies. Il y a un inspecteur de la régie de police du lac des Deux-Montagnes qui a dit n'avoir jamais vu ça, lui, en 22 ans de carrière, une maison complètement détruite par la foudre. Il y a 9 personnes qui ont été évacuées et prises en charge, soit par la Croix-Rouge ou encore par des proches. Heureusement, il n'y a personne qui a été blessé. Je vous laisse entendre un des sinistrés.
Nous, on était pas ici, on s'en venait justement vers la maison. Puis t'as des gens alentour, d'une couple de rangs d'arrêt, ils ont vu qu'il y avait une genre de bûche, de feu, je sais pas trop, qui avait, que ça a tombé sa maison, ça a fait une grosse explosion. Puis nous autres, on s'en venait, puis on disait qu'il y a une maison qui est en feu. Puis quand on a vu c'est quoi de la rue, c'était notre maison qui est en feu.
Oh mon Dieu, oui, tout perdu comme ça. Il y a d'autres dégâts qui ont été causés par la grêle. Là, on parle de grêlons de près de 5 cm de diamètre. C'est assez gros, tu as vu ce que ça donnait.
Oui.
Et ben, ça a causé des ravages sur des terres agricoles.
Bien, le problème à ce temps-ci de l'année, souvent, c'est que les fruits, les légumes ont déjà commencé à pousser. Et là, quand on a de la grêle, bien, ça vient directement abîmer chacun des fruits et des légumes. Moi, je me suis rendue aujourd'hui à Saint-Joseph-sur-le-Lac. J'ai rencontré là-bas un pomiculteur qui a reçu des grêlons de la pièce de 2 $
Alors, oui, d'une pièce,
oui, c'est assez impressionnant quand même. Dans l'un de ses champs, celui qui considère le comme étant le plus touché, il pense avoir perdu plus de 50 % de sa récolte.
C'est sûr qu'avec de la grêle, si on pense à une balle de golf qui a touché, mettons, l'arbre et qui a éclaté en plusieurs morceaux, bien évidemment, ça a touché plusieurs pommettes qui sont déjà là, qui sont déjà en formation. De la pomme qui va être perdue, soit qu'elle va tomber ou sinon, bien, elle va s'en aller en transformation. Alors, je pense que de plus en plus, c'est pas juste l'agriculture, mais je pense que de plus en plus, en général, on va être affecté par les changements climatiques. Et ce qu'on a vécu hier, bien, avec la grosseur, ça s'est déjà vu dans le passé, mais je pense que là, maintenant, c'est la répétition. 21 000, là, ça fait pas un mois, là. C'est à recommencer.
Alors, ça, c'est pour les vergers. Il y a aussi des producteurs maraîchers qui ont rapporté aujourd'hui beaucoup de dégâts dans le secteur. Et il y a aussi dans le coin de Laval, hier, Michel, où il y a eu des pluies diluviennes. Là, c'est pas tellement des récoltes pour cette année qu'on a perdu, mais pour l'année prochaine, parce qu'il y a des plants de fraises qu'on venait de planter qui ont été emportés par les eaux. Ah. Alors là, on va avoir des impacts, voilà, jusqu'à l'an prochain de ces grandes pluies d'hier.
Merci beaucoup, Fanny. On poursuit tout de suite avec le météorologue et président fondateur de Météo Global, Jean-Charles Beaubois. Bonsoir, Jean-Charles.
Bonsoir, Michel.
Bon, il y a... Je regardais un peu plus tôt aujourd'hui, il y avait des veilles d'orages violents qui étaient en vigueur. Ça semble être levé, là, mais il y a quand même des risques d'orages dans certains secteurs au Québec?
Alors, le seul secteur qu'on surveille encore un peu pour l'instant, c'est le secteur de Québec, de la ville de Québec, où on pourrait avoir encore quelques orages, mais je vous dirais que le risque est plutôt faible. Ailleurs, on a quand même une ligne d'averse qui arrive, qui devra apporter autour de 4-5 mm peut-être sous une averse, notamment pour la région de Montréal, je pense aux Francophonies pour ce soir, puisque ces précipitations seraient attendues plutôt entre 19 et 23 heures.
Bon, et il y a des vents, on voit déjà, là, ça se lève par moment, mais pas trop d'inquiétude, c'est ce que je comprends, là, comparativement à hier.
Non.
D'ailleurs, hier, c'était quand même un bon système qui a frappé, là.
Oh, c'est une multitude même de systèmes, de cellules différentes qui ont frappé. Ça a commencé milieu, fin d'après-midi. On a quand même eu deux ou trois gros systèmes qui se sont succédés. Sur la rive sud, par exemple, on a eu aussi énormément de pluie, jusqu'à 50 mm de précipitations, et seulement en une heure. Donc, c'était vraiment très, très intense, notamment la région de Longueuil, la Prairie, par exemple. Pour l'île de Montréal, c'était entre 40 et 60 mm de pluie en 3 heures. Donc, vraiment, ce sont des quantités de précipitations qui sont vraiment très, très importantes. Le vent a été... Alors, ça a été très bizarre, ça, parce que le vent a été intense sur la rive nord. Par contre, au moment du passage du système sur la rive sud, tout d'un coup, le vent s'est calmé complètement à zéro. Et puis, ça a repris par la suite, juste derrière le système. Ça a soufflé aussi, mais quand même dans une moindre mesure. Donc, c'était vraiment un système très, très intense.
Ça, c'est certain. Oui. Jean-Charles, parlons de ce qui se passe en Europe, parce que vraiment, l'Europe qui est touchée par une énorme canicule. Certaines journées, la température monte à plus de 40 degrés dans le sud de la France. Qu'est-ce qui explique cette chaleur extrême? Ça vient d'où, au juste?
Bien, alors, ce sont des remontées de chaleur qui viennent du nord de l'Afrique, parce que c'est une configuration, je dirais... plutôt rare. C'est sûr que sur le sud de la France, si on prend Marseille, par exemple, Nice, les remontées d'air chaud sont quand même courantes, certainement en été, puisqu'on a des températures de 30-35, rien de très exceptionnel. La seule chose qui est assez exceptionnelle pour l'instant, c'est qu'on a vraiment cette bulle d'air chaud qui est remontée, qui passait sur l'Espagne, qui maintenant concerne le sud-ouest de la France, avec, comme vous le disiez, des températures qui atteignent les 40 degrés. Et la journée la plus chaude, ce sera demain, samedi, avec des températures qui devraient atteindre 40 degrés, notamment à Bordeaux, du côté de Reims, Strasbourg aussi. Pour Paris, on attend 37 degrés pour la journée de demain. Oui. Heureusement, ça va se calmer dès dimanche, avec une chute assez sensible des températures. On ne devrait pas dépasser les 25-26 degrés pour la journée de dimanche à Paris, par exemple. Mais vraiment, c'est un phénomène qui est alors relativement rare, mais qui s'est quand même reproduit plusieurs fois ces dernières années. Il y a eu deux événements comme ça l'année dernière. C'est déjà le deuxième événement, en fait. Alors, ce n'était pas monté jusqu'à Paris au mois de mai, mais on avait quand même eu des températures assez élevées.
À Paris, on se souvient de 2003, cette canicule historique qui avait tué quoi, 15 000 personnes, je pense, en France.
Tout à fait, oui. Et c'est vrai qu'ils ont pris des mesures depuis, par exemple, de peindre les toits de la ville en blanc pour évidemment diminuer l'effet de noyau de chaleur.
Jean-Charles, en 5 secondes, est-ce qu'on prévoit des épisodes caniculaires à répétition cet été?
Ah, ça, c'est la bonne question. Je ne pourrais pas vous le dire. On espère un été quand même chaud, de là avoir plusieurs épisodes caniculaires.
Chaud, mais pas trop.
C'est pas dans le moment pour l'instant. On ne peut pas dire, tiens, c'est certain, on va avoir des canicules.
Bon, Jean-Charles.
On espère quand même d'avoir chaud.
Oui, en effet, juste assez. Merci beaucoup, Jean-Charles.
Juste assez, voilà.
Au plaisir, bye-bye.
À bientôt, au revoir.
Bon, si vous désirez vivre la frénésie des Franco ou du Grand Prix ce week-end, ben vous devrez probablement vous armer de patience, surtout pour trouver un stationnement. Se rendre à Montréal se fera quand même dans un temps raisonnable, mais c'est surtout trouver un espace pour garer sa voiture qui risque de prendre plus de temps, même si on choisit un stationnement payant. Il y a mon collègue Emmanuel de Rouenega qui a fait le test, et je vous le dis tout de suite, pensez à des options.
C'est long!
Ça n'avance point.
Donc, comme on le voit un peu partout au centre-ville, c'est la saison des festivals. Les Franco, Festival Juste pour Rire, il y a aussi la F1 qui arrive. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on arrivera cet été avec les travaux, avec les enjeux de circulation, à se rendre jusqu'au centre-ville.
La coordination est un exercice qui est excessivement difficile. Coordonner les chantiers de 20 partenaires, c'est énorme. Les principales infrastructures routières dans la région de Montréal ont toutes été construites à peu près en même temps, donc pour à peu près l'Expo 67. Ce qui veut dire que quand elles viennent, la durée de fin utile est à peu près en même temps. Donc ça fait en sorte qu'on a beaucoup de chantiers, des projets majeurs, beaucoup de cônes, mais je vous dirais que d'ici 2030, il va y avoir une amélioration considérable.
Ah! La F1 a lieu à deux pas d'ici, mais je n'y arriverai peut-être jamais. Parce que ça n'avance pas. Trouver du stationnement semble mission pratiquement impossible. Les places de stationnement, mais elles sont toutes recouvertes d'un petit capuchon qui lui dit place annulée, en gros. Pourquoi? Je sais pas. On pourrait demander à la ville.
De façon générale, quand la borne de stationnement est condamnée, c'est sûrement pour une raison de fermeture de rue, des travaux ou encore un événement festif. N'hésitez pas à aller dans les stationnements privés à l'intérieur. Vous allez grandement faciliter vos déplacements.
Les festivités de la F1, le trafic dans lequel je brille. On va laisser tomber l'idée de se stationner au centre-ville. Je pense qu'on va aller directement au Franco en espérant pouvoir se trouver une place là-bas pour aller voir un peu de spectacle. Ça fait 1h15 que j'ai quitté Longueuil. Ça fait 1h15 que j'ai quitté Longueuil. Ça fait 1h15. Alors, prioriser les autres moyens de transport.
Commençant le 24 juin, pour l'été jusqu'à la fin du travail, 7 stations de métro vont bien vous desservir gratuitement les fins de semaine pour avoir accès au centre-ville. C'est une autre raison de prendre un cocktail de transport qui comprend peut-être votre voiture, mais le transport en commun, bien, essayez nos pistes cyclables, le rêve.
C'est le plus proche que je me serais rendu des Franco. Je ne suis pas stationné légalement, donc je ne pourrais pas rester. Mais après 1h30, je rentre à la maison.
Bon, ben on en discute de ça avec notre collaboratrice Déborah Cherenfant, qu'on retrouve à Toronto ce soir. Bonsoir, Déborah.
Bonsoir, Michel.
Là, je te vois tout sourire. Ouais, c'est pas parce que, pas parce qu'on rit que c'est si drôle que ça, hein, mais quand même, c'est un exemple. Une heure, plus d'une heure pour trouver un stationnement, là, c'est rien pour aider la réputation du centre-ville. Comment c'est perçu par les commerçants, par les gens d'affaires?
Pas du tout. Je pense que c'est vraiment, je pense que les gens s'habituent, surtout les commerçants. Parce qu'on le vit tellement depuis un certain nombre d'années à Montréal, entre autres en raison des travaux. Donc, les gens se sont habitués à ce que le stationnement soit difficile. Mais là, ça prend, j'ai envie de dire, ça a une nouvelle coche parce que les festivals, les rues qui sont fermées, des nouveaux travaux pour les pistes cyclables, entre autres. Donc, ça fait en sorte que ça réduit le potentiel de stationnement pour beaucoup de personnes. Et effectivement, je souriais parce que je partageais la frustration d'Emmanuel dans cet exercice. Mais effectivement, c'est pas du tout très drôle pour les commerçants. Non. C'est pas très drôle pour les résidents non plus qui décident de prendre leur voiture pour explorer, non, pour investir et revitaliser le centre-ville. Donc, on comprend que c'est une situation assez fâcheuse pour beaucoup de personnes.
Ouais. Il y a peut-être une partie de ça, c'est que pendant la pandémie, mais en tout cas, on est plusieurs à avoir pris notre voiture pour aller au centre-ville. C'était facile de se stationner. Là, c'est autre chose parce que la vie reprend. Qu'est-ce qu'on pourrait faire donc pour améliorer l'accès au centre-ville? Il y a la question de la gratuité du métro les fins de semaine, là, de l'été, dès la semaine prochaine. On en parlait dans le reportage. Ça va aider?
Je pense que ça va définitivement aider. C'est une très bonne nouvelle pour les touristes, pour les résidents même si on ne le voit pas tout le temps. Mais c'est une bonne nouvelle pour revitaliser le centre-ville. On en parle depuis la mi-pandémie. Comment est-ce qu'on peut relancer le centre-ville? C'est quand même une très bonne nouvelle. C'est peut-être moins une bonne nouvelle pour la STM en termes de potentiel de revenus. Oui. Parce que, comme on le sait, effectivement, ce sont des sociétés de transport qui ont eu un petit peu difficilement pendant la pandémie avec la baisse d'usagers réguliers. Donc, ce n'est pas...
Mais ça va peut-être ramener des usagers, ça. Hein? Ça va peut-être ramener des usagers qui, en septembre, vont payer tout leur déplacement.
Et j'en fais partie.
Oui, bon.
Et j'en fais partie, Michel, véritablement. Je pense que ça va ramener des usagers ponctuels, mais on veut susciter quand même la pérennité de leur abonnement. Oui. Et je pense que ça peut encourager les gens, effectivement, à retrouver leurs anciennes amours, leurs anciennes habitudes, retourner dans les festivals, leurs restaurants. Et les chiffres le montrent qu'il y a un regain pour les activités au centre-ville. Et c'est quand même très positif.
Parle-nous de la reprise des activités, parce que tout ça, ça tombe en même temps de la relance, en fait, post-pandémie. Où en est, en fait, cette relance?
Du côté touristique, on se situe quand même très bien. Je pense qu'au niveau touristique, on parle festival oblige, Grand Prix oblige, on parle d'un taux d'occupation de 95 à 98 au niveau des sites touristiques, que ce soit resto, hôtel, etc. Donc, c'est quand même très positif après deux ans où, on a eu un taux d'occupation à peine du tiers. Mm-hmm. Au niveau des employés maintenant, pour le retour des employés à temps plein, ce n'est une surprise pour personne. Les employés ne sont quand même pas de retour à temps plein. Ceci étant dit, les chiffres augmentent. On parle, par exemple, d'un taux d'occupation qui frôle les 60 % pour un retour une journée par semaine. Donc, on n'est pas dans le temps plein. Mm-hmm. On espère, on anticipe le 100 % pour le mois de septembre. Donc, il y a quand même des choses encore à vérifier. Mais au moins, pour les citoyens, les résidents, j'ai envie de dire les fêtards, même s'ils en font partie, puis on veut bien faire partie de ce groupe-là, les gens sont de retour au centre-ville, reste accrocher la case des employés pour le retour au bureau, dans les tours à bureau de façon plus spécifique. Ça reste encore à voir, mais on est sur la bonne voie.
Déborah, 10 secondes, tu es à Toronto pour une conférence sur la diversité et l'inclusion. Comment Montréal se compare à la ville-reine en ce moment, là, en termes justement d'occupation rapidement?
De déplacement. Je pense que le maire de Toronto s'en vantait il y a deux jours, je regardais les nouvelles en arrivant justement, à quel point la multiplication des moyens de transport facilitait un peu ces déplacements-là dans la ville. Puis ça, je pense que ça, on peut le donner à Toronto en termes de différents moyens de se déplacer à travers la ville. Mais j'ai goûté à la médecine du trafic intense qu'Emmanuel vivait tout à l'heure, hier, et je pense que c'est deux poids, deux mesures. Ouais. Oui, il y a l'autobus, il y a le métro, mais c'est quand même assez difficile, quand même, en heure de pointe.
Déborah, cher enfant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt.
Un grand plaisir. À très bientôt.
Il n'y a pas de l'action que dans les rues du centre-ville. Il y en a sur le circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame où les essais libres se poursuivent. J'en ai parlé un peu plus tôt avec mon collègue Nicker Guerrier. Salut, Nicker.
Salut, Michel.
Hey, parle-nous un peu de l'ambiance. Est-ce qu'il y a pas mal de monde?
Écoute, Michel, l'ambiance est fébrile. J'ai passé la semaine au Grand Prix sur le site du circuit. On sentait tranquillement la fébrilité. Ce matin aussi, il faisait un peu frais. On sentait cette fébrilité monter lors des premières courses, des autres séries. Mais lorsqu'on approchait l'heure des premiers essais libres de la F1, bien, il a commencé à avoir de plus en plus de monde. On voyait très bien les estrades se remplir. Et laisse-moi dire que l'ambiance était vraiment à son comble. La première fois en trois ans, en fait, qu'on voit des F1 sur le circuit Gilles Villeneuve. Et laisse-moi dire que les gens étaient très heureux de voir les pilotes en piste.
Bon, hey, parlons justement des coureurs, ceux qui sont à surveiller en fin de semaine. Il y a le meneur Max Verstappen et le jeune Charles Leclerc également, et bien sûr Lewis Hamilton.
Oui, bien sûr, les noms que vous entendez régulièrement semaine après semaine avec nos collègues de RDS. Mais je vais suivre surtout les Ferrari parce qu'on a eu des problèmes de fiabilité lors des dernières courses. Charles Leclerc, Ferrari, toujours très populaire cette écurie ici au Québec. Charles Leclerc, un francophone, donc encore plus d'amour pour la Scuderia. Max Verstappen, champion du monde en titre, qui est poursuivi par son coéquipier, Sergio Pérez. Donc, une espèce de guerre fratricide qu'on risque de voir ici sur cette piste. Donc, je m'attends à avoir beaucoup d'action. On a eu une séance ici d'essais libres quand même assez intéressante. Carlos Sainz, le coéquipier de Leclerc sur Ferrari, qui a eu un temps plus que respectable. Donc, on aura pour cette deuxième de séance qualification avec Fernando Alonso, entre autres, qui est arrivé vraiment comme une surprise de l'écurie Alpine. C'est le pilote, Michel, qui a la plus longue carrière. Il a dépassé Michael Schumacher, une autre légende de la F1. Mm-hmm. Donc, on aura droit à un week-end rempli d'action et peut-être même de surprises comme celle de voir Alonso parmi ceux qui ont enregistré les meilleurs temps aujourd'hui.
Ouais, tu t'es intéressé un peu à la sécurité également?
Oui, Michel, entre autres choses, il y a un hôpital de piste ici au circuit Gilles Villeneuve. C'est l'ancienne Tour Pirelli qui a déjà servi de tour de contrôle. Et cette semaine, bien, j'ai participé à un entraînement de l'équipe médicale pour transporter, en cas d'urgence, oui, des pilotes, mais également des gens qui pourraient avoir des malaises ici au circuit Gilles Villeneuve.
On regarde ça.
Dans le cadre du Grand Prix du Canada, j'ai fait un petit tour d'hélicoptère, mais pas le tour d'hélicoptère que vous pensez. Je me trouve présentement dans l'ancienne tour Pirelli du circuit Gilles Villeneuve, un endroit qui a servi également de tour de contrôle lors des courses et qui sert aujourd'hui d'hôpital médical. J'ai rencontré le médecin qui s'occupe de coordonner toutes les équipes médicales qui auraient à intervenir ici sur le circuit.
Ce qu'on organise ici, c'est l'intervention en piste, la stabilisation à l'hôpital et puis le transfert vers le centre hospitalier. Tout ça, c'est une mécanique qui reste quand même assez bien rodée.
Ça prend quoi exactement pour réussir tout ça puis à coordonner tout ça ensemble?
On est environ 140 personnes qui travaillons là, sur l'équipe médicale, infirmières, inhalothérapeutes, personnel de soutien et médecins.
C'est encore impressionnant, ça, après 20 ans?
Ah oui, c'est le fun. D'ailleurs, une des autos qui vient de passer, c'est le Dr Roberts, qui est l'intervenant, le délégué médical de la Formule 1. C'est lui, en passant, qui avait fait la fameuse intervention de Grosjean. Ça commence avec lui. Le secours au pilote immédiat se fait à ce moment-là. On transfère en ambulance ici. L'équipe de stabilisation ici du Dr Scarborough prend la relève.
J'ai rencontré le Dr Scarborough, l'urgentologue qui est responsable de savoir qui sera transporté d'urgence à l'hôpital, un transport qui se fera en hélicoptère. Je vais être votre patient aujourd'hui. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez me faire exactement?
On fait un examen complet.
On nous amène un patient de 30 ans, autour des corps à 160 km à l'heure. Il a fait quelques tonneaux. Il est en altération d'état de conscience.
On a recréé une salle de réanimation, OK, comme dans un hôpital. Fait qu'on a des moniteurs cardiaques, on a des infirmières, on a des inhalothérapeutes, des anesthésistes. L'évaluation se fait rapidement, 5 à 10 minutes.
Une fois que le patient est prêt à être transporté, il se passe quoi? Est-ce que vous vous déplacez avec lui? Et qu'est-ce qui se passe dans l'hélicoptère également?
En fait, c'est qu'on décide l'équipe la plus appropriée qui va suivre le patient. Fait que tout dépendant du patient, si c'est, par exemple, un gros polytraumatisé, on va mettre peut-être un chirurgien, par exemple, pour suivre le patient, on va mettre des infirmières, une inhalo. Si c'est un cas plus médical, une intoxication, un coup de chaleur, mais là, à ce moment-là, ce ne sera pas nécessairement la même équipe médicale.
Les jeunes hermédiques sont sur nos fréquences médicales à nous, de radio. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui se discute, ils sont immédiatement au courant. Alors, eux, ils sont prêts à partir. Ils assurent l'environnement de transport avec médicalisé pour nos patients. En même temps, on communique avec Sacré-Cœur pour dire, bien, écoutez, on s'en vient, il y a quelque chose, on vous apporte quelqu'un.
Et la communication entre Hermédic et l'équipe médicale du circuit Gilles-Villeneuve, bien, est constante. On s'entraîne, on se pratique et on tente constamment d'améliorer les processus et d'être le plus efficace possible, mais également d'être déjà au courant de tout ce qu'il faudra faire et être prêt à toute éventualité lorsqu'une urgence survient ou surviendrait au circuit Gilles-Villeneuve.
L'intoxication extrême pourrait désormais être admise en défense de personnes accusées de certains crimes violents. On vous en parlait récemment. Il y a le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, qui a déposé aujourd'hui le projet de loi C-28 qui va dans ce sens. Ça fait suite, bien sûr, à cette décision de la Cour suprême qui a invité le gouvernement à être plus équitable pour l'accusé tout en respectant la protection des victimes. Le gouvernement Trudeau a choisi de juxtaposer, oui, l'intoxication volontaire extrême à la notion de négligence criminelle. Le conflit en Ukraine a provoqué l'indignation partout sur la planète. Les dons pour venir en aide aux Ukrainiens affluent au détriment d'autres crises ailleurs dans le monde. On en parle dans un moment. Le 114e jour de guerre en Ukraine, il y a le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a reçu la visite, en fait, du premier ministre britannique Boris Johnson à Kiev. Les deux chefs d'État ont discuté de l'acheminement de davantage de matériel militaire. Boris Johnson a à nouveau réitéré son appui au peuple ukrainien et a promis d'en faire davantage.
We are going to continue to help intensify the sanctions on Putin's regime. We're going to do everything we can to continue to strengthen the diplomatic coalition of support around the world for Ukraine.
Et sur le terrain, dans le sud du pays, la marine ukrainienne affirme avoir frappé, en fait, un navire russe qui transporte des systèmes de défense aérienne sur l'île des Serpents située dans la mer Noire. Il s'agit d'une position stratégique pour le contrôle des voies maritimes près du port d'Odessa. Les Nations unies et plusieurs organisations partenaires ont lancé au début du mois de mars, en réaction à l'invasion russe, un appel humanitaire d'urgence pour une somme de 1,7 milliard de dollars qui a été rassemblée presque immédiatement. Mais aujourd'hui, il y a les ONG qui se plaignent qu'il manque peut-être de fonds pour d'autres crises, entre autres du côté de l'Afrique. On en discute avec notre collaboratrice Maïka Sundarji, professeure en développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Maïka.
Bonsoir.
Pas parce que les conflits ou les crises se multiplient que le financement et surtout les dons se multiplient au même rythme. En fait, ce que les ONG déplorent, c'est quoi? C'est que quand il y a une nouvelle crise, surtout très médiatisée comme celle de l'Ukraine, on oublie les autres.
Mais effectivement, donc on va donner aux crises les plus sexy, puis ça, c'est vraiment un problème lié au mode de financement des ONG. Parce que comme avant, c'était les gouvernements qui finalement finançaient les organisations humanitaires, les organisations de développement, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus des particuliers. Donc quand il y a une crise, on fait une campagne de publicité, une campagne de publicité, là, c'est ironique, mais c'est le cas, c'est qu'on essaie de rendre la crise le plus public possible pour que les gens donnent. Mais ce que ça fait, c'est qu'on est tributaire, finalement, de l'intérêt des gens envers telle ou telle crise. Puis les gens, c'est un jeu à somme nulle. Là. Si les gens donnent 200 $ à une crise en février, ils ne vont pas donner 200 $ à une autre crise en avril. Et ça fait que quand il y a des grosses crises, on donne beaucoup, mais sur le long terme, on n'assure pas des financements réguliers aux organisations, finalement.
Bon. Et il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à donner davantage à une cause plutôt qu'à une autre. Quelles sont celles qui influencent davantage les donateurs?
En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que si, par exemple, une crise pour des donateurs européens ou nord-américains, si une crise se passe en Europe, on va donner vraiment davantage. En ce moment, il y a des crises partout dans le monde, en Centrafrique, au Liban, il y a à peu près 1 million, 4 millions de réfugiés, 1,5 million de réfugiés sur une population de 4 millions. Donc, c'est une crise de migration importante. Mais comme là, ça se passe en Europe, on a l'impression que ça se passe chez nous. Je me souviens, Fabrice Ville parlait de caucasité dans un article de la presse, puis c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on donne davantage quand il s'agit de personnes blanches, évidemment. Et on va avoir une solidarité, disons, à deux niveaux. Même, on le voyait dans les médias, quand on parlait des réfugiés ukrainiens, on parlait d'une immigration qui allait être différente. On parlait des gens de qualité. On avait vraiment, même dans les médias, on parlait de gens qui, finalement, ils disaient même dans notre espace civilisationnel. Donc, on s'associe vraiment plus aux Européens et donc, on va donner davantage. Donc, ça a été le cas quand la cathédrale Notre-Dame a été brûlée. On donne beaucoup plus que si c'était les mausolées de Tombouctou.
Que ce soit par la proximité ou que ce soit par des ressemblances culturelles. On prend proximité, il y a eu Lac Mégantic, les gens ont été extrêmement généreux quand la tragédie est arrivée. Là, tu me donnes des exemples d'Europe. Quelle est la solution, donc?
Bien, c'est ça, comme tu dis, c'est la proximité à la fois géographique, mais aussi culturelle. Puis ça, c'est vraiment important de le réaliser. La solution, en fait, c'est d'essayer de donner de manière régulière. C'est-à-dire, si on pense qu'on va donner 200 $ mais donner à la Croix-Rouge, donner à l'organisation alternative ou donner à des organisations du Sud directement, parce qu'il faut absolument être solidaire des crises dans le monde. Mais quand on a un afflux de dons d'un coup, comme ça a été le cas, par exemple, avec Haïti aussi, où là, c'était, c'était pas une question raciale ou autre, c'est juste, bien, c'était une crise qui était, en gros guillemets, sexy. Mais on a donné beaucoup, mais finalement, les ONG ne savent plus comment faire parce que c'est un afflux trop important d'un coup, puis après, les autres crises, on les délaisse. Donc, donner, mais donner plus régulièrement, finalement.
Oui. Et en terminant, il reste 20 secondes, avec l'inflation, il y a une récession qui pourrait poindre. On imagine que les dons pourraient diminuer. Ça doit être pas très encourageant pour les ONG.
Bien, exactement. Puis comme les dons diminuent partout, quand on a beaucoup d'argent sur une crise, on est obligé de donner à cette crise-là, d'injecter les fonds-là. Donc, on va espérer que les dons ne vont pas trop descendre parce que c'est une question d'humanité, finalement.
Maïka, merci beaucoup.
Merci à toi, Maï.
On a vu hier les longues files d'attente devant les bureaux des passeports dans Ville-Saint-Laurent. Il y a des Montréalais qui ont décidé de troquer cette attente-là pour la route. Il y a plusieurs qui conduisent de Montréal ou de Québec, en fait, jusqu'à Saguenay pour obtenir leurs précieux documents le plus rapidement possible. Il y a mon collègue Marc-Antoine Maillot qui est allé à leur rencontre sur la rue Racine dans le secteur Chicoutimi.
Depuis 7h30 ce matin, des gens font la file pour avoir leur passeport. Et parfois, c'est des gens qui proviennent de très loin, qui ont fait la route de Montréal, Québec, pour venir ici au Saguenay pour avoir leur passeport. On peut entendre justement certaines réactions.
Vous venez de où, vous?
De Montréal.
Donc, vous avez fait la route pour venir chercher un passeport.
Oui, parce que là-bas, il faut passer deux nuits. Le bureau de Ville-Saint-Laurent, il faut passer deux nuits. Hier, on a passé vers 2h. Tout le monde était sur la ligne pour les jours après. Après, on a passé à 8h le soir et tout le monde était là. Et après, à 3h du matin, j'ai pris la route pour venir ici. Je viens d'arriver.
Oui, dans le fond, je suis juste venue pour accélérer le processus de mon passeport. J'ai envoyé, dans le fond, mon passeport il y a 4-5 mois puis j'ai pas eu de nouvelles encore. Là. Fait que c'est quand même long.
J'ai fait la route de Saint-Bruno sur la rive sud de Montréal pour venir faire la file pied de grue là, devant les bureaux des passeports à Chicoutimi.
Donc, c'est plus rapide de faire 5 heures de route, finalement?
Bien, 5 heures de... En fait, c'est 10 heures de route totale combinée par rapport à faire 10 heures d'attente à Laval. C'était l'option la plus près de chez moi pour avoir un accès express pour le passeport. Donc, oui, c'était plus adéquat. Ma conjointe a essayé à deux reprises d'aller chercher le passeport à Laval. Et puis, en arrivant à 4h30, 5h du matin, il y avait déjà 200 personnes devant elle. Donc, c'est très, très, très compliqué.
Il y a une jeune femme de Lévis, dans la région de Québec, qui affirme avoir été victime d'agressions sauvages et gratuites. Selon son témoignage qui a été partagé sur les réseaux sociaux, il y a un homme qui aurait tenté de l'enlever alors qu'elle allait porter secours à une femme au sol qui s'est avérée être une complice, en fait, de l'homme en question. Imaginez, il y a notre collègue Jacques-Alain Houde qui a rencontré la mère de la jeune femme.
Angélique, elle m'a écrit un texto. Et elle m'a expliqué qu'elle n'était pas capable de me parler, qu'elle était trop émotive, trop sous le choc, avec de la douleur, mais qu'elle voulait que je sois au courant, mais qu'elle avait besoin d'un temps pour elle.
Après l'agression, elle, ça a été quoi son premier réflexe?
De prendre plein de chemins différents pour se sauver, pour être sûre de ne pas être retracée. Après, ça a été, elle a contacté son chum. Elle voulait pas que son père soit au courant parce qu'elle s'est dit qu'il va disjoncter.
Angélique Pageot, 20 ans, dit avoir été victime d'une agression lorsque hier, tôt le matin, elle revenait du travail. Elle aurait aperçu une femme gisant au sol qui semblait demander de l'aide, mais avant même de pouvoir lui porter assistance, un homme se serait rué sur elle pour tenter de l'enlever.
Suite à la publication sur les réseaux sociaux, il y a une plainte qui a été portée. On a rencontré la dame en question et en ce moment, là, c'est dans les mains des enquêteurs. Je suis pas en mesure de vous dire s'il y a quelqu'un qui est recherché là-dedans, s'il y a un profil en tant que tel, c'est dans les mains des enquêtes, puis il y a des validations à faire.
Sur le moment, je me sentais coupable. Du coup, si on n'enseignerait pas ça à nos enfants, peut-être qu'elle ne serait jamais arrêtée, puis que ça ne serait pas arrivé. D'un autre côté, elle l'a fait plein de fois, puis tout a bien été, puis elle a aidé plein de gens dans sa vie. Là, elle est encore à l'hôpital. Ouais. Elle passe une série de tests. Donc, elle est fatiguée. Elle veut juste aller se coucher. Elle veut plus en entendre parler. Elle veut comme s'effacer ça de la tête. Quand elle s'est fait dire par son agresseur, « Ta gueule, suis-moi, puis tout va bien aller. » Dans le fond, il voulait l'emmener. Il voulait l'enlever. Qu'est-ce que ce serait passé par la suite? Là, on a plein d'images qui nous arrivent. C'est arrivé après son travail, fait qu'elle va tout le temps comme penser à ça à chaque fin de chiffre. J'aimerais ça vous dire que tout va bien aller, mais... C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite.
On change maintenant complètement de registre. Est-ce que vous compostez? Puis est-ce que vous compostez suffisamment? Il y a près de 40 % des aliments qui sont distribués au Québec qui se retrouvent dans les poubelles, selon Recycle Québec. On produit un peu plus de 3 millions de tonnes de résidus alimentaires par année. Imaginez, ce sont des données qui frappent alors que l'inflation a fait bondir le prix de notre panier d'épicerie. Donc, comment moins gaspiller ces temps-ci? Il y a ma collègue Anaïs qui a posé la question à une experte.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans nos poubelles? Eh bien, des résidus qu'on ne peut pas manger, par exemple cette pelure de banane ou des coquilles d'œufs, ou encore des résidus alimentaires qu'on a peut-être laissé traîner dans le fond de notre frigo et qu'on a oublié, comme c'est mon cas avec cette laitue, cette carotte un peu molle et ce citron qui est carrément en fin de vie. Et le hasard fait bien les choses, ce qu'on gaspille le plus, en plus grande proportion du moins, là, ce sont les fruits et légumes.
Les restes sont souvent aussi un aliment qu'on jette, donc on se prépare des plats, peut-être qu'on ne les congèle pas, on les oublie dans le réfrigérateur ou dans le congélateur. Puis on le sait actuellement, là, le prix des denrées du panier d'épicerie augmente, donc il y a un avantage aussi économique pour nous de faire attention aux aliments qu'on achète, puis d'essayer de réduire au maximum le gaspillage à la maison.
Donc, on va se diriger dans la section où les aliments sont les plus jetés par, par les ménages québécois. Vous, est-ce que vous avez des solutions pour éviter ou réduire ce gaspillage-là?
Les fruits et légumes, c'est les seuls aliments qu'on achète encore vivants quand on va à l'épicerie. Ils vont respirer, ils vont transpirer, donc ils ont encore une vie, puis ça, il faut gérer cette vie-là. Donc, c'est ça qui rend la conservation difficile. Vu que là, ça va être le temps des récoltes dans les jardins bientôt, une des façons, justement, de bien les conserver, moi, j'aime beaucoup la réfrigération. C'est facile. La congélation aussi, c'est super rapide, ça ne demande pas de transformation. Donc, en général, quand on va acheter même des aliments congelés à l'épicerie, on les congèle dans les heures suivant la récolte. Comme ça, ça fige l'aliment dans le temps. On gèle les vitamines, en gros. Ça donne des aliments un petit peu plus nutritifs que si on l'avait laissé sur le comptoir pendant quelques jours. Donc, moi, j'adore réfrigération, congélation.
Il y a quelque chose d'intéressant où les légumes et les fruits peuvent s'influencer ou influencer leur durée de vie entre eux.
Oui, bien, en fait, c'est un des trucs qui n'est pas beaucoup connu dans la conservation des fruits et légumes, mais les fruits qu'on est capable de faire mûrir sur notre comptoir hors de leur plan après la cueillette, comme les bananes, les tomates, les avocats, le cantaloupe. Donc, c'est tous des fruits qu'on peut faire mûrir grâce à un gaz qui dégage, qui est inodore, puis il n'y a pas d'odeur, donc on ne s'en rend pas compte qu'il est là. Il n'y a pas de couleur non plus. Donc, le gaz s'appelle éthylène. Donc, mais ce super gaz qui est dégagé par la banane, par exemple, va déranger tous les autres fruits et légumes qui, ce gaz-là, les stressent. Donc, quand un fruit puis un légume est stressé par une situation, il va faire comme nous autres, il va augmenter son métabolisme, il va respirer plus, il va transpirer, perdre son eau, flétrir. Donc, puis plus un fruit puis un légume respire, bien, moins longtemps il vit. Il y a vraiment des petites solutions super simples qui permettent de diminuer ce gaspillage-là puis qui permettent aussi de un peu sauver la planète.
Le gaspillage alimentaire a aussi des conséquences climatiques parce que ça produit des gaz à effet de serre. On parle de l'équivalent de 8 millions de tonnes de CO2 produits par notre gaspillage alimentaire. Et ça, c'est dur de se l'imaginer, mais c'est l'équivalent d'à peu près 36 milliards d'allers-retours entre Québec et Montréal en voiture.
Tirer sa révérence, passer le flambeau, c'est dans l'air du temps, on dirait. Hein? Bien, cette semaine, c'est le PDG du cinéma Beaubien, Mario Fortin, qui a, après plus de 20 ans à se consacrer à la promotion du cinéma québécois, a annoncé qu'il va prendre bientôt sa retraite. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Fortin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'est donc le 18 décembre que vous allez laisser place à la relève pour diriger les cinémas Beaubien du Parc et du Musée. Vous allez avoir 70 ans. Il était temps, donc, pour vous de passer le flambeau. Est-ce que ça faisait longtemps que vous y pensiez?
Bien, ça faisait longtemps qu'avec le conseil d'administration, on avait commencé à travailler ça, parce que ce n'est pas un processus qui s'improvise. Là. Je ne pouvais pas arriver un jour et dire, tiens, voici les clés du cinéma, arrangez-vous. Mm-hmm. Alors, on avait commencé, il y a plusieurs années, à documenter, à préparer, à structurer comment l'avenir se passerait pour que le passage de flambeau se fasse en douceur, sans que ça paraisse.
Avez-vous déjà trouvé qui va prendre votre place?
Il y a un comité qui a été formé par le conseil d'administration, puis ils sont en plein milieu, pas en plein milieu, ils sont pas mal sur la fin des démarches, et je pense que bientôt, ils seront capables d'annoncer les personnes qui me succéderont.
Donc, la passation du flambeau va pouvoir se faire tranquillement, parce que vous annoncez quand même votre retraite plusieurs mois d'avance. Vous êtes à la tête du cinéma Beaubien depuis 20 ans. C'est un mandat que vous avez pris après 30 ans à peu près tout faire dans l'industrie. Vous avez travaillé pour Famous Players, Téléfilm Canada, des festivals comme le Festival des films du monde. Vous avez reçu plusieurs prix également pour votre rapport à la culture québécoise. Quelle est, M. Fortin, votre plus grande fierté?
Ben, je pense que la plus grande fierté, c'est d'avoir su démontrer aux détracteurs du cinéma sur le grand écran qu'il y avait encore un avenir il y a 20 ans, et puis de voir qu'aujourd'hui, ça se perpétue. On annonce la mort du cinéma en salle régulièrement pour toutes sortes de raisons, et puis on est là, malgré les deux ans et demi qu'on vient de passer avec la pandémie. On est encore présent, puis on est encore là, puis encore du monde dans les salles de cinéma. Puis les gens veulent sortir, les gens veulent se changer les idées dans une salle, les gens veulent rire ensemble, pleurer ensemble dans une salle. Et puis on est encore là, puis on y sera encore après que j'aurai passé de l'ombre.
Vous parlez des deux années de la pandémie. J'imagine que ça a été une période difficile là, pour dans toute votre carrière, dites-moi. Est-ce que la reprise est vraiment là dans les cinémas? Est-ce que ça se déroule bien?
Aujourd'hui, au moment où on se parle, la plupart des cinémas, puis c'est presque partout sur la planète sont à peu près à 50, entre 50 et 70 % de la période comparable à plein régime, là, 2019. Donc, mai 2019 comparé à mai 2022, on est à peu près à 70 % dans notre cas pour les trois cinémas. Et il y a une progression d'à peu près 5 % par mois depuis la reprise en février. Donc, ça veut dire que si on fait une extrapolation, d'ici la fin de l'année, on aura repris là où on était avant le 13 mars 2020.
Alors, même la pandémie n'aura pas causé la fin du cinéma en salle, ça, c'est ce que vous nous dites. Il y a des petits cinémas comme le Beaubien, là. C'est plus qu'un diffuseur, ça contribue à la vitalité d'un quartier.
Oui, effectivement, les commerces autour nous doivent beaucoup, les résidents autour nous doivent beaucoup aussi. Il y a des études qui ont été faites par des chercheurs qui démontrent que on génère des millions de dollars dans l'économie du quartier et par année. Mm-hmm. Et puis ça, ben c'est, je pense que
ça montre l'importance de ces petits cinémas-là qui doivent survivre. Monsieur Fortin, on espère qu'ils vont survivre longtemps grâce à tout le travail que vous avez fait. On vous souhaite une excellente retraite. Merci de nous avoir également ouvert à plusieurs reprises vos portes pendant, entre autres, la pandémie. Et bien, bonne fin de mandat.
Merci beaucoup.
Au revoir. Dans un instant, on se transporte à la place des festivals, oui, en ce vendredi, parce que les Franco de Montréal se poursuivent. Puis il y en a encore pas mal à voir. Il y a pas mal d'actions pour les prochains jours. Franco de Montréal tire à leur fin. Le festival se termine en fait demain soir, mais il y a encore beaucoup d'actions ce soir à la place des festivals. On vous donne un aperçu un peu de la programmation de la soirée avec notre collaborateur Seb Lauzon, qu'on retrouve en direct à la place des festivals. Salut Seb!
Salut Michel! Fait beau ce soir, on est heureux.
Bon, hey, c'est notamment le retour... Oui, bien, c'est vrai que c'est pas mal plus beau qu'hier, hein, faut le souligner. C'est notamment le retour tant attendu du rappeur français MC Solar.
Qui, lui, s'est établi en 1991 comme littéralement le père du rap francophone avec son premier album, Qui sème le vent récolte le tempo. Et après cette histoire, après une longue, longue pause de 10 ans, il est revenu en 2017. Paradisiac est sorti l'an passé et là, il était très attendu de telle sorte que le spectacle de ce soir à la Place des Arts affiche complet. Alors, j'ai bien hâte d'avoir des nouvelles là-dessus, mais j'ai l'impression que les festivaliers vont en avoir pour leur argent.
Bon. C'est une bonne nouvelle, ça. Et toujours en salle, il y a l'artiste Andréane Amalette qui va monter sur scène du côté de la maison du festival.
Elle a fait paraître un troisième album solo en 2020, tout juste avant un nouveau confinement. L'album très personnel pour titre Sitka, ça a pris du temps avant qu'elle puisse l'offrir en spectacle. Et là, ça se fait depuis quelques semaines. Elle est très, très, très heureuse de pouvoir l'offrir aujourd'hui au Franco, festival avec lequel elle a une belle relation. Je vous laisse l'entendre.
On a fait l'année passée le gros stage. Là, on est en dedans. Fait que je vais pouvoir faire en fait vraiment tout l'album parce qu'en festival, c'est sûr qu'on enlève un peu les chansons, piano, voix, les trucs comme ça. Et Sitka est un album assez émotionnel, sentimental. Fait que là, je suis contente de pouvoir présenter ces chansons-là cette année au Franco.
Et finalement, c'est Louis-Jean Cormier qui va clôturer la soirée sur la scène Belle. Bon, à quoi les festivaliers peuvent s'attendre?
Bien, encore une fois, Louis-Jean Cormier aime offrir des trucs différents à chaque fois qu'il y a une occasion comme un festival comme ça. Il va jouer la plupart des chansons de ses deux derniers albums, Quand le ciel tombe et Le ciel est au plancher, mais on va aller retravailler aussi des chansons des deux précédents albums. Je vous le dis, ça risque d'être tout un spectacle. On l'a rencontré un peu plus tôt. Vous verrez ça ce soir aux 22h.
Et on se traîne un parapluie ce soir. Hey, merci beaucoup, Seb. C'était le fun de t'avoir à tous les soirs. Bye-bye.
Pour moi aussi, à plus.
Il y a du nouveau concernant la vaccination contre la COVID. Il y a la Santé publique fédérale qui a confirmé aujourd'hui que Santé Canada étudiait la demande de Moderna pour l'administration du vaccin contre la COVID auprès des enfants de moins de 5 ans, alors qu'aux États-Unis, ben, on sait maintenant qu'il va pouvoir être donné aux enfants de 6 mois à 5 ans. Même chose pour le vaccin Pfizer. Ça veut dire qu'environ 18 millions de jeunes Américains vont pouvoir commencer à être vaccinés dès la semaine prochaine. Et chez nous, bien, c'est à compter de demain que le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun. Ce sera donc comme dans tous les lieux publics, en fait, où le choix de porter le masque est désormais à la discrétion de chacun. La Direction de la santé publique du Québec continue quand même d'encourager les personnes vulnérables et surtout immunosupprimées à continuer à le porter. Et il y a une Montréalaise de 33 ans qui vient d'être nommée adjointe au directeur général des Browns de Cleveland dans la NFL. Catherine Reich était depuis l'an dernier avec les Eagles de Philadelphie. Bien, elle a commencé son parcours dans le football professionnel comme stagiaire chez les Alouettes de Montréal en 2015. Elle a ensuite été promue jusqu'à devenir directrice générale du club en 2017. Alors voilà, merci beaucoup de nous choisir pour vous informer. C'est Mika qui sera avec vous dès 22h. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi, 17h.